VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 19h à Kigali. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité aux États-Unis. Convention républicaine de Cleveland dans l'Ohio. Aujourd'hui est la dernière journée de la réunion, qui sera clôturée dans la soirée par un discours final du milliardaire Donald Trump, formellement investi comme candidat à la Maison-Blanche. On retrouve à Cleveland l'un de nos envoyés spéciaux à la convention, Nicolas Pineau.
Oui, le candidat républicain qui va s'exprimer ici depuis la Quicken Loans Arena de Cleveland. On attend beaucoup de ce discours. Avant de l'entendre, il sera introduit par sa fille Ivanka. On sait qu'il est très proche d'elle et qu'elle est très présente, notamment au sein de sa cellule de communication. Alors évidemment, dans ce discours, il y aura certainement des attaques contre Hillary Clinton, comme depuis le début de cette campagne. Mais ici, beaucoup attendent de la substance, des idées. Donald Trump veut rendre à nouveau à l'Amérique sa grandeur. Comment veut-il s'y prendre? Combien cela va-t-il coûter? Il faudra donner des réponses devant les délégués de la convention. On suivra ça évidemment sur VOA Afrique.
En attendant le discours de Donald Trump ce soir, la nouvelle qui domine l'actualité à la convention est le refus de son ancien rival Ted Cruz de lui apporter son soutien lors de son allocution hier soir aux délégués. Plus de détails sur la controverse avec notre autre envoyé spécial à Cleveland, Idrissa Sedoudia.
Les réactions ont été très négatives. D'ailleurs, Paul Manafort, qui est le directeur de campagne de Donald Trump, a critiqué vertement ce matin Ted Cruz en disant qu'il n'a pas tenu parole parce qu'il s'était engagé avant les primaires d'appuyer le candidat du parti, ce qu'il n'a pas fait. Mais ce matin, en s'adressant aux membres de la délégation du Texas, Ted Cruz a dit qu'il y a quelques jours, quand ils l'ont contacté, il leur a dit clairement qu'il n'allait pas le faire. Alors, il est venu, il a essayé de défendre sa position en disant qu'il ne comprend pas pourquoi les gens sont si mécontents quand il leur dit de voter leur conscience, de faire ce que leur dicte leur conscience. En réalité, bon, il va suivre ce que Donald Trump va faire. Et avant de décider quoi que ce soit, il demande aux autres de faire la même chose. Quelqu'un lui a demandé, mais et votre promesse? Vous avez dit que vous alliez faire ceci et cela, et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Alors c'est en ce moment-là qu'il a ressorti cette histoire, l'attaque ad hominem contre sa femme, contre son père. Vous vous souvenez, Donald Trump avait qualifié sa femme de laide et avait aussi fait allusion à son père, une histoire selon laquelle il aurait trempé dans le meurtre de l'ancien président John Kennedy. Il a dit qu'une personne qui attaque de cette façon sa femme et son père, il n'est pas prêt à respecter quelque engagement qu'il ait pris.
Idrissa Sedoudia à Cleveland dans l'Ohio. On passe maintenant à l'Afrique. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a rendu hommage aux 17 Maliens tués lors de l'attaque de Nampala mardi. La cérémonie s'est déroulée dans le camp militaire de Ségou, le chef-lieu régional. Avant cela, le gouvernement malien avait décrété un deuil national de 3 jours et instauré 10 jours d'état d'urgence. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Nampala a été attaqué pour la 4e fois par des hommes armés. Cette localité malienne a toujours enregistré de lourds bilans. Pour la 1e fois, l'État a fait recours à l'état d'urgence pour une période de 10 jours, susceptible d'être prorogée par le Parlement malien. Le gouvernement malien, de son côté, a décrété un deuil national de 3 jours qui a débuté ce jeudi 21 juillet 2016. C'est ce même jeudi aussi que le président de la République du Mali s'est déplacé à Ségou, à quelques 244 kilomètres de Bamako. Ibeka, dès son arrivée, s'est dirigé vers l'hôpital Nyanankoro Fomba pour s'enquérir de l'état de santé des blessés afin de leur souhaiter prompt rétablissement. C'est dans le camp Sékou Amadou Tall que Ibrahim Boubacar Keïta a participé à l'hommage rendu par la nation malienne aux 17 soldats tombés à Nampala. Un hommage qui, selon lui, sera une tradition au Mali. Ibeka décide désormais d'accompagner les soldats maliens tombés sur le champ de l'honneur dans leur dernière demeure. Un acte salué par la population de Ségou qui ne s'est pas privé aussi de demander au chef de l'État de donner des moyens nécessaires et des matériels aux militaires maliens. Il faut rappeler que les 17 soldats ont été décorés à titre posthume. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Gambie, le leader de l'opposition et 17 autres militants ont été condamnés hier à des peines de prison. Le point avec Idriss Fall.
Osseinou Darbo, leader du Parti démocratique unifié, principal parti d'opposition, et 17 autres partisans ont écopé de 3 ans de prison chacun. Ils ont été reconnus coupables de 6 chefs d'accusation, dont participation à un rassemblement illégal. Ces opposants ont été appréhendés le 16 avril pendant une manifestation pacifique pour exiger la libération de dizaines de leurs sympathisants qui avaient été arrêtés l'avant-veille. 25 d'entre eux sont toujours détenus en attendant leur procès. Les manifestants réclamaient aussi une enquête sur la mort en détention de Solo Sandeng, secrétaire national à l'organisation de l'UDP, arrêté le 14 avril. Ce verdict a eu lieu 2 jours avant le 22e anniversaire du coup d'État qui a amené Yahya Jammé au pouvoir et moins de 5 mois avant les élections présidentielles.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, les autorités nationales et les Nations Unies ont lancé mercredi à Kinshasa une campagne massive de vaccination contre l'épidémie de fièvre jaune. Les détails avec Tatiana Mosso.
L'opération a été lancée à Kizenko, commune de Kinshasa, où quelques 80 cas suspects ont été enregistrés et où 4 personnes sont mortes de la maladie. Vital Kabuiku, ministre de la Santé de la province de Kinshasa, a rappelé au début de la cérémonie de vaccination symbolique de près de 400 personnes que la fièvre jaune n'a pas de traitement spécifique, seule la vaccination permet de se protéger contre elle. Selon l'OMS, la campagne vise à vacciner plus de 4 millions de personnes en Angola et quelques 11 millions en RDC, pour un coût estimé à 34 millions de dollars. L'épidémie s'est déclarée en décembre 2015 en Angola, qui partage une longue frontière avec la RDC. En Angola, 355 personnes sont mortes et en RDC, il y a eu au moins 85 décès. La fièvre jaune est une maladie hémorragique vitale transmise par le même moustique vecteur de Zika ou de la dengue.
En Angola, le Parlement angolais a adopté une loi d'amnistie pour les personnes condamnées à des peines maximales de 12 ans de prison pour des délits non violents. Un texte qui devrait s'appliquer aux 17 opposants assignés à résidence. Nani Talani.
La loi proposée par le gouvernement accorde le pardon pour tous les crimes passibles d'emprisonnement jusqu'à 12 ans, a déclaré le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Rui Mangueiras. Cependant, sont exclus de cette amnistie les crimes violents, les délits sexuels, le trafic de stupéfiants, la traite des personnes et des organes humains. Quelques 8 000 personnes devraient bénéficier de cette loi. Selon Zenaida Machado de Human Rights Watch, les 17 opposants condamnés en mars à des peines de prison pour tentative de rébellion qui ont été libérés en juin et assignés à résidence devraient en principe en bénéficier. La militante des droits de l'homme veut que le gouvernement abandonne les charges contre eux ou qu'un tribunal les acquitte, car ils n'ont commis aucun crime.
Le Rwanda poursuit sa politique de détention arbitraire des enfants des rues, des indigents et des vendeurs à la sauvette dans des centres de transit répartis dans le pays et où les mauvais traitements sont monnaie courante, a dénoncé ce jeudi Human Rights Watch. L'ONG américaine de défense des droits humains souligne dans son rapport que l'arrestation des personnes pauvres s'inscrit dans le cadre d'une politique gouvernementale officieuse visant à dissimuler la présence des personnes indésirables. L'actualité hors d'Afrique maintenant, la Turquie s'est réveillée aujourd'hui sous état d'urgence avec un appel du président Recep Tayyip Erdogan à son cher peuple, dit-il, pour que ce dernier reste mobilisé en faveur de la démocratie après le putsch raté du 15 juillet. Les précisions de John Lindon.
L'état d'urgence annoncé hier par le président turc Recep Tayyip Erdogan donne des pouvoirs étendus à l'exécutif en lui permettant de prendre des décrets et en force de loi. L'état d'urgence instauré pour 3 mois n'avait pas été décrété depuis près de 15 ans. Il prévoit notamment des restrictions aux libertés de manifester ou de circuler. Le vice-premier ministre a néanmoins confié aux médias que le gouvernement pourrait le lever dans 1 mois ou 1 mois et demi si les conditions reviennent à la normale. Recep Tayyip Erdogan rejette toute atteinte aux libertés fondamentales et les critiques venues de l'étranger. Nous resterons un système démocratique parlementaire. Nous ne reculerons jamais là-dessus, a assuré le président turc. Il a par ailleurs appelé ses concitoyens à continuer à descendre dans la rue pour résister aux traîtres terroristes.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.